What was wrong with me before? Did I need the silver to be suitable? Copper, I have a use for you. It's easy work, it suits you. Dazzle, dirty beauty, you must know. Copper is a conductor and makes for decent cooking. Dazzled by your beauty, still you know. Plated or anodized, you even fool a layman's eyes. Presentable though you might be, it's unwise to try to fight me. Copper, you'll never be gold. Copper, you'll never be gold.
Un autre extrait de Shellac à l'instant, le morceau Copper, extrait du deuxième album Terraform, sorti sur Touch & Go en 1998, l'année Zizou. Voilà, bah si. En fait, Shellac, ils ont fait 6 albums, dont un album posthume qui vient de sortir, qui s'appelle Two Old Trains. On a déjà diffusé dans Kérosène 2 fois. Comme j'ai déjà dit, l'album est en rupture de stock au niveau des vinyles. Il sera désormais disponible de retour fin juin sur Rennes. Et ben Steve Albini, il a pas fait que de la musique. Il en a également enregistré des tonnes et des tonnes. Et c'est un peu pour ça que d'ailleurs qu'il était extrêmement connu dans le milieu musical. Et que sa mort a marqué beaucoup de gens, car beaucoup de gens étaient bossés dans son studio, ont bossé avec lui. Et en 1988, il commence à enregistrer son pote, un de ses potes, qui s'appelle David Grubbs, qui joue dans Bastro. Il massacre le son du premier Bastro, c'est pas bon, il est pas content du tout. Et il est contacté par carrément 4AD. Parce que je vous ai parlé d'un Colin Wallace qui a vu les premiers concerts du Big Black. Bah, Colin Wallace, c'est pas n'importe qui. Et c'est ce gars-là, il a marqué son pas dans une existence.
Moi aussi, je peux le faire, taper.
Voilà, c'était un employé lambda du label 4AD. Finalement, il était un peu débrouillard et parfois il allait choper des drogues pour les Cocteau Twins. Il s'est même fait choper par la police pour possession de marijuana avec Robin Guthrie à l'arrière. Et à un moment, on lui confie les clés de l'entrepôt pour gérer la logistique du groupe. Et il se trouve à ce moment-là que c'est le début du succès pour Mars, Pump Pump the Volume, rappelez-vous, avec Russell Smith de Terminal Cheesecake.
Pump Pump
qui est dans le projet
Pump Pump the Volume. Pump Pump the Volume.
Et donc, Ivo, le boss du label, lui confie les trucs logistiques. Et à ce moment-là, Ivo commence à avoir une dépression. On lui parle beaucoup des Pixies. Il a reçu une cassette, la fameuse Purple Tape, qui a été refusée par le label français Neurose. Il faut le savoir, ils auraient pu signer sur Neurose. Et les patrons du label à l'époque n'avaient pas cru en ce groupe. Et tout le monde lui parle d'Ivo. Et puis Ivo lui dit, bah, pourquoi pas, c'est vrai que c'est pas mal, c'est prometteur. Et donc le gars lui dit, putain, je suis sûr là. Avec ce groupe, il faut qu'ils aillent travailler avec Steve Albini. Et donc ce responsable logisticien chez 4AD a convaincu les Pixies, le groupe de Boston, de rejoindre la ville de Chicago pour aller enregistrer le premier véritable album de Pixies qui s'appelle Surfer Rosa. Et comment dire, sa carrière de producteur a complètement décollé, même s'il a été redouté avec les Pixies. Il a souvent dit des vacheries sur eux, sur l'enregistrement. Il était pas tendre avec notamment Charles Thompson, qui traitait le leader des Pixies, Black Francis, de gros veau.
Ouais, mais putain, Surfer Rosa,
fou,
quoi.
Hein.
Ouais, mais Surfer Rosa.
Surfer Rosa, le premier morceau qui ouvre l'album, Bond Machine, c'est l'alpha et l'oméga de la production Albini. C'est ce que tous les groupes iront chercher chez lui, c'est la profondeur.
Exactement.
Le son de batterie où t'as l'impression que le batteur joue chez toi, que le bassiste est dans tes toilettes et fait que
c'est
la
spatial,
guitare
c'est
est dans
d'ailleurs s'il pouvait se barrer parce que putain ça fait un moment qu'il est dans les toilettes et,
hein. Non mais c'est une production qui est brillante et voilà. En plus ça a été un petit peu documenté, c'est que ça s'est très bien passé entre eux humainement la première semaine. Le truc qui a agacé, c'est que les Pixies, c'est la première fois que Steve Albini, déjà c'est une de ses premières prod en tant qu'enregistreur, et là il avait affaire à un groupe qui était contacté après les prises par un agent, par le tourneur. Il disait, qu'est-ce que c'est que ce truc de business à la con. Et Surfer Rosa, c'est quand même l'album qui a lancé sa carrière. Allez, on s'écoute
et
tout de suite.
Non, et puis les Pixies sur notre génération, ça a marqué moi quand
oui, ça a marqué
tout le monde.
Moi j'étais un peu plus jeune, j'ai découvert ça 2-3 ans après la sortie de Surfer Rosa, et ça m'a foutu une calotte qui a déterminé
moi,
ce que j'allais écouter.
Moi, je suis beaucoup plus jeune que vous, c'était mes années lycée, clairement.
Non, mais ce que j'allais écouter dans ma vie, quoi. Donc, voilà, c'est évidemment qu'on s'écoute ça, c'est le moment de mettre tout ça à burn.
Nous, on a découvert les Pixies via Christophe Brou, un animateur qui a fait partie de Radio Savane, pré-Canal B. Donc,
salut à lui.
C'est allez, maintenant, le morceau. On écoute ça, c'est les Pixies, c'est
Alpha
maintenant.
Omega, la production, quoi.
Oh,
Une autre production de Steve Albini. Cette fois-ci, on est parti à Leeds, en Angleterre, avec le groupe Wedding Presents et Sea Monsters. Le troisième album. Un vrai tournant pour la carrière du groupe, avec cette production d'un son un peu brut, abrasif, un peu plus... post-hardcore, noise. Malheureusement, ça durera pas pour le groupe et c'est un peu malheureux, mais en tout cas ça restera un super groupe. On saluera la tenue du groupe dans le temps, que j'affectionne particulièrement, tout comme John Peel, qui les a fait passer un nombre de fois assez incalculable, les Wedding Presents qui sont aussi on va saluer un nombre de singles qui sont assez impressionnants, et moi ça reste un des groupes qui m'ont touché.
Eh ben écoute, nous aussi.
Et Sea Monsters 91, et c'était signé, c'est je ne sais pas quoi, on va écouter le morceau Heather.
Le morceau.
Et ben tout à l'heure on écoutait évidemment les Pixies en parlant de Surfer Rosa, donc on va aller sur un truc évidemment qui est lié aux Pixies, puisque on va parler des Breeders. Alors les Breeders, c'est toujours les gens qui parlent la splash tout ça, mais non, avant il y avait Pod, cet album formidable sorti sur 4AD 90, évidemment par Steve Albini qui est aux manettes, sorti sur Elektra Records pour le Royaume-Uni et 4AD pour le reste du monde. C'est le premier album, il y a Kim Deal, il y a Tanya Donnelly, il y a Josephine Wiggs, et puis pour la petite histoire, ils voulaient que ce soit un groupe 100% féminin. Donc ils ont pris un batteur, et le batteur s'appelle Britt Watford. C'est juste le batteur de Slint, mais en fait pour faire croire un groupe féminin, ils l'ont appelé Shannon Dumbtown. C'est assez cocasse. Et en tout cas, Pod, c'est un chef-d'œuvre. Tout cet album est incroyable.
Justement, pour faire enrager Black Francis, il a souvent dit que Pod c'est 10 000 fois mieux que Surfer Rosa. Et ça faisait chier le Black Francis. Il chiait plus grand, en fait.
Et puis le violon de, on va pas oublier de citer tout le monde, Carrie Bradley, qui est au violon. On va écouter When I Was a Painter, et comme je l'ai écrit quand j'ai envoyé ma playlist à Gwen Jimmy, When I Was a Pointer, ce qui fait que comme quand j'étais un pointeur,
c'est
mon passage en prison qui a fait. Mais en tout cas, voilà, cet album Pod est absolument génial. Voilà, donc on écoute ça tout de suite parce qu'on va un peu speeder pour essayer de passer le plus de morceaux possible. On écoute les Breeders, Pod, c'est parti. McCluskey, on était parti du côté de Cardiff. Écoutez évidemment McCluskey, l'album McCluskey Do Dallas, sorti sur Two Pure en 2002, évidemment, avec Steve Albini aux manettes. McCluskey, c'est Andy Falco qu'on retrouve à la guitare et au chant, Jonathan Chappell à la basse, Matthew Harding à la batterie, puis Jack Eggleston. Le morceau Day of the Dead Ringers, qui est un morceau absolument génial, mais tout l'album est absolument génial. Alors ils se sont arrêtés un bon moment, et puis on a appris récemment qu'ils se reformaient pour notamment quelques dates du côté de l'Irlande avec nos amis.
Ils font plusieurs dates, mais en tout cas ils sont actuellement avec nos potes de Hands Up Who Wants to Die.
Et ça c'est absolument formidable, parce que Hands Up Who Wants to Die, avec Petit Chaton qu'on salue bien bas, et c'est génial. Et l'album de McCluskey, franchement, allez le réécouter, c'est une tuerie de A à Z. Le morceau là que j'ai choisi, j'aurais pu choisir un autre morceau au hasard. Voilà, les yeux fermés, McCluskey, c'est vraiment énorme. Et on enchaîne avec quoi?
Avec un groupe, un EP fondamental en matière de noise rock. C'était sorti en 1992 sur le label Spangled Records. Le groupe n'a jamais vraiment beaucoup parlé de lui en dehors des cercles d'initiés des fans de noise rock. Timothy P. Stevens, Vito Greto et Ryan Fisher.
Ah, on va parler de Table.
Un album sur Homestead, non, sur Humble en 1995. Mais en tout cas, ce EP avec ce morceau Gagbox. Rive de basse.
Masterpiece.
Voilà, dans les studios, à fond chez vous.
Et
voilà,
l'occasion de saluer aussi Atypic Records, qui a fait en 2017 nous reconnaître en fait un petit peu ce groupe Table. Il avait ressorti quelque chose. Donc on le salue bien bas. Et ouais, Atypic.
Sur internet. Allez,
ce label
Table
français. Ça bourrine, c'est parti.
What it feels like, what it feels like.
Wancher!
Quel morceau!
Wancher! Alors, morceau de quoi? Morceau de qui, Hélène Lecor?
Dazzling Killman, Winch Here, qui est extrait de l'album Face of Collapse. Et ce truc, qui est sorti en 94 sur.
Skingraft.
Le label Skingraft, moi, m'a accompagné toutes mes. Enfin, je pense toute l'année 97. Où j'étais à Paris et dans le métro en fait je mettais ça et c'était un truc complètement fou. Il y a quelque chose de très beethovenien dans ce morceau et je le trouve incroyable. C'est assez marrant parce que ces jeunes garçons parce qu'ils étaient très jeunes ils sont
de Saint-Louis, du Missouri, déjà.
Et ils sont issus de d'écoles de jazz. Donc pas tous,
certains. Blake Fleming à la batterie, oui. Darren Gray à la bassiste, oui. Tim Carrion à la guitare et Nick Sakes à la guitare n'ont pas fait d'école de jazz.
Darren Gray à la basse aussi.
Ouais, mais en tout cas la section rythmique.
Tu l'as dit.
Vient de d'une école de jazz et c'est ça qui tient un morceau, quoi.
Et on va retrouver. Ses membres dans tellement de groupes.
Mais ouais.
Voilà.
On a eu
The Marzolta pour Fleming, La Diaboloco, Marzolta, Colossamit, Sigbay et Zadax et
Upright Form.
Actuellement pour Nick Sakes, Brice Glass pour Gray, qu'on va retrouver. Enfin,
putain. Steve Albini a enregistré beaucoup de choses du label Skingraft Records.
On va en passer pas mal d'ailleurs.
Mark Fisher nous a toujours dit du bien de Steve Albini, donc comme nous, on croit Mark Fisher. Donc, c'était sans doute un gars sympa en fait.
Ouais, ouais. Et puis Dazzling Killman, putain de bordel de merde.
Ah oui, deux albums mythiques. On va changer radicalement de style.
Ouais,
radicalement.
Oui, on va passer Dionysos.
On peut effectivement faire Terre des Contrastes.
Non, pardon, on va
Terre des Contrastes, effectivement, puisqu'on va partir à Londres avec le groupe The Otters, formé en 90. Leur particularité, c'est qu'ils combinent du rock, de l'indie et du glam. Formé à Londres, ça je l'ai déjà dit.
Non,
par
tu l'avais
Luke
pas dit.
Haynes, si.
Non.
Après la dissolution de son groupe précédent, The Servants, The Authors, c'est guitare, basse, batterie, violoncelle, clavier. Ils ont sorti 4 albums, dont celui.
4 albums.
4 albums.
C'est un mélange de.
C'est un mélange, mais c'est un mélange.
C'est un mélange de Lesser Brum et des albums.
Ouais.
Quoi.
Voilà. C'est des,
ouais, donc des
albums. Voilà. C'est des albums en ventriloquie.
Le troisième, donc, After Murder Park, donc produit par comment
Steve Albini.
Gordon Moyse. Il a eu.
Mais je retiens jamais.
Pseudo Steve Albini.
Ben ouais. Mais je retiens jamais quoi.
On parlera de
donc
ces
c'est plus sombre, plus,
tard,
plus acéré, hein. Ça se détourne de voilà, plus de la pop qui était leurs obédiences et c'est quand même mieux pour tout le monde en fait. On va écouter New Brattington After Murder Park, c'est l'album The Authors.
Pourquoi pas.
Thank you.
Quand il était jeune étudiant, Steve Albini, il était fan de ce projet. D'autres également, notamment les trucs de Merzbow, les premiers, les trucs de Missing Foundation et de ce duo qui nous venait d'Écosse à la base, formé par William Bennett et ensuite rejoint par Philippe Bess qui avait 14 ans, qui a quitté son foyer pour rejoindre William Bennett et faire de la musique un peu, on va dire, expérimentale, avec toujours ce goût pour le son, là, le son aigu en termes d'infrabasse. C'est le groupe White House.
Aigu ouais, en termes d'infrabasse, c'est pas mal. Hein.
Et le nom White House, il vient d'un...
En fait, c'est pas forcément la Maison Blanche.
Non, voilà, c'est pas du tout la Maison Blanche. Il vient déjà de Mary White House, qui était une militante hyper moraliste au Royaume-Uni. Et en même temps, White House, c'était un magazine porno. Donc voilà, donc ils ont créé... C'est pour ça que ça s'appelle White House, et c'est assez marrant. Et William Bennett, dont tu parlais, c'est vraiment le seul membre permanent et qui coproduit avec Albini, notamment le premier album, même si c'est pas celui-là. Le premier album, c'est Thank You Lucky Stars, et qui coproduit. Mais en fait, voilà, ça vient ça. Militante moraliste, et à la fois magazine porno, et du coup, ça donne White House.
Voilà, ils ont fait 4 albums ensemble au niveau de l'enregistrement. Après White House, ça fait des disques avant Steve Albini, il en a fait après. Le projet existe toujours, et c'est donne des concerts parfois où il y a peu de monde.
Mais oui, j'ai vu ça aux instants chavirés, effectivement.
Il y a cette musique bruitiste, indus, électronique, et tu dis putain, Albini était là-dedans, parce que les gens, quand ils pensent à Albini, ils pensent plutôt noise, etc.
Ouais, ils pensent à Led Zepp, non?
Il y a encore des gens qui pensent à Led Zepp.
Non.
Non, personne pense à Led Zepp, on est d'accord.
C'est interdit, je crois.
Non, c'est pas interdit. C'est pas interdit.
Moi, je pense.
C'est pénalement répréhensible, mais
enchaîner avec un groupe de Chicago.
L'Illinois.
Il adorait Scratch Acid à la base. Il était du côté d'Austin, David Sims. Et ils ont rencontré un guitariste. Après, ils sont arrivés à Chicago. Ils ont rencontré un mec qui s'appelle Stuart Dennison à la guitare. Et puis Jim McNally les a rejoints. Ils ont fait un EP déjà produit par Albini, mais avec une boîte à rythme. Et Steve Albini leur a dit, ce serait quand même mieux
avec une
boîte à rythme. Ce serait mieux sans boîte à rythme.
Ouais, exactement.
Sans boîte à rythme.
Alors que lui, c'était quand même l'apôtre de la boîte à rythme avec Big Black. Et ça a donné ce Jesus Lizard. Voilà.
Ah oui, je croyais qu'on parlait de Dionysos, moi, donc j'étais loin de ça.
Et pourquoi tu m'en regardes
Non, je sais pas pourquoi. Mais Jesus Lizard, c'est un groupe, moi, tu as connu ça, non?
Ah bah, on va écouter quoi?
Référence de tous les temps pour nous.
Non, ça va être comme on est pressé par le temps, on va passer le morceau que voulait diffuser Sabrina.
Sabrina, quel morceau? Quel morceau, Sabrina?
Sissic.
Deuxième album.
C'est correct.
Goat. Pour Steve Albini, le meilleur disque sur lequel il a jamais travaillé. Il a toujours adoré bosser avec eux. Et The Lizard.
The Lizard.
On a toujours mal prononcé leur nom, on s'est toujours marié en disant The Lizard. C'est juste Lizard.
En tout cas, voilà, Sabrina, c'est ton moment. Tu vas pouvoir mettre le son à fond dans le studio parce que c'est maintenant Jesus Lizard. Allez,
donc Steve Albini a enregistré les débuts. Et ils ont une série de collaborations sur les 3 premiers albums.
N'importe
un album
quoi,
par an.
C'est faux, tout ce que tu dis, c'est faux.
Goat, Head, Liar. Incroyable. Après, il y a un autre et Lizard. Va sortir un nouvel album cette année prochaine. Et je sais. Et je pense que... Ah non, on n'a pas le droit de dire.
Coupe lui la parole, mets le morceau, bordel de merde, à fond dans le studio, c'est parti, allez.
Come on, Sab.
Un indice sur le décès de Steve Albini, vous a été révélé ce soir.
Oh, here's an ocean. It's singing. in a dead tide, waiting water wide, down by the high sea.
Oh là là, quel plaisir de réécouter ce groupe qu'on a fait, qu'on a eu la chance de voir à Rennes deux fois. Ah là là, quel pied, et une troisième fois pour certains, dont Sabrina, Gwen. à la Freakin' Tape Festival à Lyon. Je veux bien sûr évidemment parler de Big N. Bah oui, Discipline for Sound, sortie sur Skincraft en 95, conjointement avec Gasoline Boost, El Diablo Free. Bah, que dire de Big N, ils nous avaient foutu des calottes, ils ont toujours foutu des calottes. Brian Vilnotsky avec ses, le batteur qui a ses cymbales hyper hautes et qui avec Bill Hawkins Bill Hawkins au chant qui arrête pas de faire chier le gratteux. Alors le gratteux, c'est quand même un petit peu Tom Johnson et puis
le frère de Al Johnson, voilà. Guitariste dans Manchester, voilà. Et chanteur dans un certain groupe qui s'appelle US Maple,
un tout petit peu, et puis ce célèbre bassiste dont Sabrina connaît, bah,
on peut pas en parler ce soir.
On peut pas en parler, mais le rapport de Sabrina avec Mike Chadwant est absolument génial. Et voilà, on était obligé de passer Big N parce que voilà, Big N quoi. Voilà, c'est déjà on a eu le plaisir de les rencontrer humainement, ce qui n'est pas voilà, déjà c'était une rencontre incroyable. Je me souviens quand Pef nous les avait emmenés une journée avant et qu'on avait fini au bar, comment ça s'appelle, avant le papier timbré, chez Alex au Nose Day,
tu te rappelles.
Et c'était un moment incroyable et on a passé des moments fabuleux avec eux. Et ils sont toujours là.
Mais
ils
on les avait pas emmenés manger au Café du Port, je crois bien que oui.
Oui, le lendemain, voilà.
Au Café du Port, vous étiez mangé du chevreuil?
Non, on n'avait pas mangé du chevreuil.
Super transition.
Parce que effectivement, chevreuil, le groupe français.
C'était notre figure imposée.
Ce soir, obligé.
En plus, chevreuil de la même manière de Big N. On avait, je pense, organisé l'un de leurs tout premiers concerts. Le groupe était basé à Nantes. Julien habitait à Laval. Il connaissait déjà l'émission et tout. Voilà.
Avec Tony qui jouait de la batterie. Voilà. Et Ruminance, c'est le label. Steve Albini a participé à cet album excellent qui s'appelle Château Vallon. C'est sorti en 2003. Et puis ben Julien Fernandez quoi. Merde.
Mais pas que. Hein, il a fait d'autres.
Oui, non, mais bien sûr. Mais Julien Fernandez, il fallait qu'on lui rende un petit peu hommage aussi parce que c'est African Tape, c'est Computer Students. Il a joué aussi dans Passe Montagne au niveau des groupes. Et puis il nous a fait tellement plaisir. Et
puis même dans ses labels différents, il était sur la même lignée de Steve Albini au niveau
exactement.
Des labels indépendants. Pas de. Voilà, on reste dans des trucs. Ce qu'il fait actuellement dans Computer Student avec des packaging terribles,
qui sont
ça rappelle
énormes.
Énormément les premiers singles de Steve Albini avec Big Black. Et ce qu'il avait fait au tout début avec Shellac également, c'est des packaging particuliers où on met sous main. Et voilà, Julien, il est dans la filiation de l'esprit de Steve.
Ouais. Voilà, il y avait un split, ils avaient commencé avec un split avec Ulaanbaatar en 2001, et puis cet album qui sort en 2003, donc sur Ruminant Château Vallon, produit par Steve Albini, évidemment, on va s'écouter tout de suite le morceau Bastogne, qui, je pense, est un hommage à tous les gens qui font du vélo.
Liège, voilà. Bastogne, Liège.
Exactement, très cher. Allez, c'est parti, bisous Julien.